Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'accueillir à ce séminaire Manfred Krauss, qui est professeur à la Eberhard Karls Universität de Tübingen. Il a de nombreuses cordes à son arc. Il est spécialiste de la pensée, de la philosophie grecque. Il a d'ailleurs publié en 1987 un livre intitulé « Name und Sache, ein Problem in frühgriechischen Denken ». Il est aussi spécialiste de tragédie grecque, mais il s'est fait tout particulièrement connaître dans le domaine de la rhétorique, non seulement la rhétorique antique, mais aussi la réception de la rhétorique à l'époque médiévale et à l'époque moderne. Et il a eu dans ce domaine, il a reçu peut-être l'honneur le plus insigne, qui est celui d'être le président de l'International Society for the History of Rhetoric, de 2013 à 2015. Il a été ensuite, ou même un petit peu pendant le précédent mandat, le vice-président de la Chinese Rhetoric Society of the World. Voilà. Alors, nous nous sommes côtoyés, il n'y a pas si longtemps que ça, à un colloque qui est organisé sur les progymnasmata, ici à Paris, par Pierre Chiron. Et
Benoît Sens.
Et Benoît Sens qui est ici présent, et je le remercie d'être ici. C'était en 2018, hein, si je ne m'abuse. Et c'est précisément sur le sujet des progymnasmata que j'ai demandé à Manfred Krauss de venir intervenir dans le cadre de ces séminaires et de faire une conférence qui est à double titre absolument dans au cœur de la problématique du cours et du séminaire de cette année, puisqu'il va nous parler de la christianisation des progymnasmata, c'est-à-dire des exercices préparatoires à la rhétorique, alors que le sujet du cours cette année, les années qui vont suivre, est la christianisation de la culture écrite. Et en parlant des progymnasmata, eh bien, il va vous présenter un type d'exercice qui est au centre du séminaire cette année, puisque nous avons passé plusieurs séances de ce séminaire à travailler sur une étopée, ou je devrais dire deux étopées tout à fait inédites, d'un petit poète égyptien du VIe siècle qui s'appelait Dioscore, et qui a livré dans ce papyrus un brouillon d'une étopée qu'il a reprise sous une seconde forme, juste après. Donc c'est assez intéressant de voir comment on pratiquait ces exercices de la façon la plus concrète possible dans un milieu, on va dire, scolaire, entre guillemets, du VIe siècle. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir lui donner la parole sur le sujet païen baptisé, la christianisation des progymnasmata.
Merci beaucoup. Et je voudrais tout d'abord remercier le professeur Jean-Luc Fournet de son aimable invitation à parler dans cet endroit illustre, et à un auditoire également illustre, parmi lequel il y a quelques personnes que je connais depuis longtemps. Je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup. Et il y a aussi un petit exemplier, mais c'est plutôt un aide-mémoire avec un peu de bibliographie. Vous allez voir tout cela aussi sur l'écran. Alors, les païens baptisés. Les livres de classe, c'est trop tôt. Les livres de classe, mesdames et messieurs, aujourd'hui ont généralement une très courte durée de vie. À peine les plus graves coquilles et erreurs matérielles de la première ébauche ont-elles été corrigées dans une éventuelle deuxième édition, et déjà on les remplace par d'autres nouveaux livres selon de conceptions pédagogiques plus modernes. Comme père d'une jeune fille de 19 ans, j'ai appris ce fait à mes propres dépens. Sur cette trame, en effet, il peut être étonnant d'écouter que le manuel scolaire qu'on dirait de la plus grande réussite dans l'histoire de l'éducation occidentale a achevé une durée de vie virtuellement ininterrompue de presque 1400 ans. Et on pourrait peut-être même encore ajouter 2 siècles et demi. Il est question d'un manuel pour élèves en rhétorique provenant de l'Antiquité grecque tardive, un manuel de peu d'apparence au vu de sa brièveté, c'est-à-dire les soi-disant progymnasmata ou exercices préliminaires d'Aphtonios, rhéteur et sophiste à Antioche à Oloronte, ce qui aujourd'hui est Antakya en Turquie, au tardif 4e siècle après Jésus-Christ. L'auteur de ce manuel, comme j'ai déjà dit, était rhéteur et sophiste. Vraisemblablement, il était élève du rhéteur encore plus fameux, Libanios d'Antioche. Le fait que ce petit opuscule resta actuel si longtemps dans les écoles de toute l'Europe, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, se doit, à part l'importance générale de l'Antiquité classique comme fondation de l'éducation, surtout à son énorme flexibilité et malléabilité, qui lui permettait de s'adapter toujours de nouveau aux changements continus des circonstances. Une des adaptations les plus anciennes et plus importantes sur ce long chemin de survie et succès était sans doute l'adaptation à une vision chrétienne du monde dans le cours du procès de transition de l'Antiquité au Moyen-Âge. Car le petit livre d'Aphtonios, comme je vais vous montrer, était d'abord originaire d'une ambiance intellectuelle résolument païenne et assez critique vis-à-vis au christianisme. Dans ce qui suit, il s'agira de cette assimilation progressive de sujets chrétiens dans le répertoire thématique des progymnasmata. Ma conférence aura essentiellement quatre parties. Après une brève présentation et caractérisation des progymnasmata en tant que tels, je délinerai d'abord la marque à l'origine clairement païenne de ces exercices et leurs principes relatifs à l'histoire des idées, avant de suivre dans la troisième partie centrale, pas à pas, les principales étapes de ce processus de christianisation au cours de l'époque byzantine. Dans une quatrième partie finale, il en suivra un aperçu de l'effet énormément durable de ces exercices de classe sur la pédagogie des premiers siècles de l'âge moderne, se focalisant surtout sur l'emploi de sujets chrétiens et contemporains dans la polémique interconfessionnelle de l'époque de la Réforme et des époques suivantes. J'espère donc que les étudiants et investigateurs des époques classiques, byzantines et renaissantes trouveront chacune et chacun quelque chose qui les intéressera. Pour commencer, permettez-moi d'esquisser la matière dont il s'agira. Les soi-disant progymnasmata, ou exercices préliminaires en français, sont une série graduelle et échelonnée de petits exercices de style exécutés généralement sous forme écrite, qui fut dessinée pour conduire les élèves à croissance du niveau de difficulté, du plus facile au plus difficile, du plus petit au plus grand et de la partie à l'entier. Dans ce processus assez sophistiqué, les exercices postérieurs se passent toujours sur les antérieurs. Dans le système scolaire ancien à trois niveaux qui s'était établi depuis l'époque hellénistique, les élèves furent d'abord alphabétisés chez l'instituteur d'école primaire ou élémentaire et ensuite apprirent les structures de la langue ainsi que l'art de lire et interpréter les poètes et écrivains chez le grammairien, avant d'enfin être admis aux classes d'un rhéteur ou professeur de rhétorique pour perfectionner leur capacité d'argumentation et expression stylistique. Dans ce système, les progymnasmata étaient situés précisément au point de transition du grammairien au rhéteur, c'est-à-dire des études littéraires plutôt passives à l'éloquence active. C'est pour cela que dans l'Antiquité, la compétence pour ces exercices était souvent controversée entre ces deux groupes d'enseignants. Quintilien, par exemple, fait état de telles controverses dans l'éducation de son temps. En partie, ces exercices sont études en narration et description, d'autres sont études en divers niveaux et méthodes d'argumentation, de l'éloge, de la réprimande ou de la comparaison. Le premier point de départ était toujours les genres littéraires tout petits, comme la fable, le récit, la crie, c'est-à-dire une anecdote sur un apophthegme fait par quelques personnages fameux. Tout bien connu aux jeunes étudiants depuis leurs ans chez le grammairien. Le but final, cependant, étant la transition douce et immédiate à l'exercice en discours complet, c'est-à-dire à la déclamation. La version enfin devenue canonique, celle d'Aphtonios, en compte 14 exercices, qui sont arrangés de manière suivante. Au début, il y a la fable et le récit, soit de petits genres narratifs. Ensuite, la crie et l'adage, comme exercice très simple en argumentation, suivi par la réfutation et la confirmation d'une assertion, elles aussi études en argumentation un peu plus avancée. Après elles, font suite le lieu commun, c'est-à-dire une étude vitupérative contre un stéréotype des caractères condamnables, tel qu'un meurtrier, adultère ou traître, ainsi que l'éloge, les blâmes et la comparaison, toutes formes élémentaires du discours épidictique. Une groupe finale est constituée par les quatre exercices de l'étopée, de la description, de la thèse et de la proposition de loi, qui chacune, à sa façon, déjà prépare directement à la déclamation. Car pour une déclamation complète, il faut un caractère spécifique, des circonstances précises, une thèse bien définie et naturellement la connaissance des lois. Dans l'Antiquité déjà, les exercices individuels étaient associés avec les trois genres de discours comme étude préparante à ceux-ci. Comme si la fable, le récit, l'archerie, l'adage et la thèse étaient attribués au genre délibératif, c'est-à-dire au discours politique. La réfutation, la confirmation, le lieu commun et la proposition du loi, par contre, étaient associés au genre judiciaire. Et les cinq qui restent, au genre épidictique ou discours panégyrique. D'autres divisions, par contre, attribuaient les exercices aux diverses parties du discours, comme l'exorde, la narration, l'argumentation et la péroraison. Tant le nombre que l'ordre des exercices pouvaient quand même différer légèrement d'un manuel à l'autre. Il y en a 10 chez Théon, 12 chez le pseudo-Hermogène et Nicolaos et 14 chez Aphtonios. Selon le niveau de difficulté visé, s'y prêtaient aussi de différentes formes de traitement. Au niveau grammatique, les textes tout brefs pouvaient servir de matière pour des études de lecture ou écriture ou pour de simples exercices morphologiques de flexion, comme il est attesté par quelques fragments de papyrus scolaires conservés en Égypte. À un niveau un peu plus haut, ils étaient ensuite employés pour des exercices de traduction, de paraphrase, d'amplification ou de versification. Et au niveau le plus élevé, il devait être élaboré par les étudiants comme pièce de composition autonome selon des règles assez rigoureuses. Les ouvrages anciens qui se livraient aux études des progymnasmata se divisaient en deux grandes catégories. Ou ils agissaient d'instructions théoriques et didactiques pour leur composition et pour leur traitement en classe, ou bien de recueils de pièces de résistance, d'exemples modèles élaborés de tels exercices. D'ouvrages théoriques dont il existait, comme nous avons par des citations, un nombre considérable, nous sont parvenus après tout 4 manuels grecs plus ou moins complets. L'ouvrage très érudit, très détaillé et très volumineux d'un certain Elius Théon, très probablement du 1er siècle après Jésus-Christ, s'adressa plutôt aux professeurs qu'aux étudiants, mais il provient toujours d'une tradition plutôt grammairienne. Un autre manuel, erronément attribué au rhéteur Hermogène de Tarse, et provenant de la période aux alentours de 200 après Jésus-Christ, par contre est extrêmement court et sobre. Les 12 exercices qu'ils contiennent furent ensuite élargis au nombre canonique de 14 au IVe siècle tardif par Aphtonios, par la division des exercices auparavant combinés de réfutation, confirmation et éloge, blâme en deux exercices indépendants chacun. Du Ve siècle provient le manuel du rhéteur Nicolaos de Myre, qui se base sur Aphtonios ainsi que sur Théon et cherche à harmoniser les deux. De la deuxième catégorie, nous sommes parvenus de l'Antiquité tardive des recueils composés ou assemblés par Libanios, par Severos d'Alexandrie et par un autre rhéteur aussi appelé Nicolaos, mais non pas identique avec l'auteur du manuel théorique. Les deux derniers recueils peuvent très bien eux aussi être provenus de l'école du même Libanios. Les recueils de ce genre serviraient avant tout à la méthode éprouvée d'apprentissage par imitation. Toutefois, parmi tous ces ouvrages, seulement et uniquement celui d'Aphtonios offre une combinaison d'instructions théoriques et exemples pratiques. Chacun des exercices y est illustré par un exemple typique. Seulement l'éloge en reçoit deux. Selon toute probabilité, c'était surtout ce trait unique qui, en fin de compte, fit prévaloir la version d'Aphtonios sur toutes les autres. Portons maintenant notre regard vers le fond intellectuel de ces ouvrages. En premier lieu, bien sûr, les progymnasmata serviraient-ils de moyens pour l'enseignement formel en composition et rhétorique. La rhétorique, cependant, ne peut jamais être enseignée de manière complètement abstraite, sans aucun contenu quelconque. Même un texte rédigé purement pour des buts d'entraînement formel doit nécessairement avoir une matière bien définie. Alors, comme depuis Aristote, la matière de la rhétorique est généralement localisée dans le domaine des actions et de la société humaine, les exercices même préliminaires en rhétorique peuvent non plus échapper à la discussion des grandes questions de la morale, de la religion et de la politique. Même si, ce qui arrive pour une bonne partie, les sujets traités sont empruntés à la mythologie ou sont de caractère complètement fictif ou fantaisiste, les arguments y appliqués toujours se basent sur l'expérience de la vie réelle et prennent en compte l'ensemble des valeurs politiques, culturelles et morales d'une société. Par conséquent, déjà dès l'Antiquité, les exercices en rhétorique étaient tout délibérément utilisés non seulement dans le but d'apprendre aux étudiants une habileté formelle de parler et écrire, mais au même titre, leur objectif était aussi d'en faire des jeunes citoyens indépendants et responsables, de leur apprendre les normes fondamentales éthiques, politiques et religieuses et d'ainsi les préparer à son futur rôle dans la société. Au cas par cas, cependant, les normes ainsi transmises pouvaient être ou en cohérence ou bien en contradiction avec les valeurs prévalentes de la société respective. Dans le premier cas, elles auraient un effet stabilisateur et affirmatif, mais dans le dernier, elle pourrait avoir un effet potentiellement subversif. Et cela n'était même pas nécessairement à cause d'une attitude personnelle du professeur, mais très souvent, il suffisait qu'une attitude fondamentalement conservatrice du système éducatif se soit bouché les yeux de façon conséquente devant les changements perpétuels de la société. Alors, justement, le système ancien d'éducation était caractérisé par un conservatisme particulièrement rigide et obstiné. Précisément, l'Antiquité tardive en général, et le IVe siècle en particulier, fut une période qui connut au moins trois changements fondamentaux affectant le monde ancien. Premièrement, la transformation irréversible de l'Empire romain en une monarchie véritablement absolue. Deuxièmement, la séparation et désagrégation graduelle des deux hémisphères de cet empire, le grec oriental et le latin occidental, qui commença avec les réformes de Dioclétien en 293 et qui aboutit à leur séparation définitive et officielle après la mort de Théodose Ier en 395. Et enfin, troisièmement, chose charnière à notre sujet, la montée en puissance du christianisme qui passa du statut de secte subversive, marginalisée et persécutée à la détention du pouvoir. Processus qui commença avec l'édit de tolérance de Constantin Ier en 313 et trouva son achèvement après avec sa promotion au rang de seule religion officielle d'État sous Théodose Ier en 391. En regard de ces changements profonds qui firent trembler les fondements de l'écumène ancien, l'éducation rhétorique dans l'Antiquité tardive, par contre, fut une entreprise complètement conservatrice, qui persista dans sa forme pratiquement inchangée pour tout un demi-millénaire. Cette attitude conservatrice prit comme point de départ le mouvement soi-disant atticiste qui, depuis le début de notre ère, propaga le retour aux normes linguistiques des auteurs de l'époque classique d'Athènes dans les 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Depuis l'époque de la seconde sophistique, dans les 2e et 3e siècles après Jésus-Christ au plus tard, à ce mouvement linguistique se joignit aussi un classicisme et athénocentrisme culturel général, qui adora et glorifia les valeurs de l'Athènes classique et démocratique des 5e et 4e siècles, et on fit une norme générale contraignante aussi pour l'époque contemporaine. Dans les écoles de rhétorique de l'Antiquité tardive, dominèrent, comme l'ont bien démontré les savants, des sujets comme la lutte de Démosthène contre Philippe de Macédoine, les campagnes d'Alexandre le Grand, les guerres médiques et péloponnésiennes, mais rien de contemporain. En outre, on trouve des sujets de mythologie grecque empruntés aux poèmes homériques, ainsi qu'aux tragédies attiques, documents elles aussi de l'époque la plus brillante d'Athènes. Donc, tandis qu'au dehors des murs des écoles, la Grèce était dominée par Rome et se forma une monarchie progressivement autoritaire et centraliste, dans les sujets de leurs exercices rhétoriques, les sophistes encore et toujours défendirent avec acharnement les idéaux démocratiques contre tout système monarchique, la liberté et l'indépendance contre la servilité, le particularisme et régionalisme contre le centralisme et le pouvoir de la loi contre la monarchie absolue. Cet idéal d'un hellénisme classiciste et nostalgique, moyennant lequel les Grecs s'assurèrent de leur identité et supériorité culturelle sous la domination romaine, était tellement étroitement lié à l'éducation supérieure, la paideia, et surtout au monde des écoles de rhétorique, que les étudiants de ces écoles apprirent l'habitude de s'appeler tout court « Hélène », au sens très élitaire. Chez un bon nombre de sophistes et rhéteurs, une partie intégrale de cette attitude était aussi la confrontation à la montée du christianisme, qui menaça d'opprimer et étrangler la croyance aux anciens dieux païens, si étroitement associée avec cet hellénisme classiciste. La vraie opposition maintenant n'était plus seulement ou non tant les Grecs contre les Romains, mais les Grecs de croyances traditionnelles contre les Grecs chrétiens. Ces derniers, à la longue même, préférirent d'être appelés Romaioi, afin de se démarquer nettement de ces Hélènes païens. Le nom Hélène, autrefois le synonyme d'une élite de personnes d'éducation supérieure au sens de l'école de rhétorique, ainsi devint peu à peu un synonyme de païen. Si on tient aussi compte du fait qu'au IVe siècle, les écoles de rhétorique se trouvèrent progressivement soumises à une pression énorme, sociale et économique, de la part des écoles du latin et du droit romain, qui commencèrent à leur contester la primauté dans le système éducatif. À cet égard, la correspondance de Libanios est assez éloquente. On comprend pourquoi beaucoup de sophistes de cette époque, comme Libanios, par exemple, luttèrent contre l'esprit du temps et contre le christianisme avec tant de ténacité. Le corpus le plus volumineux d'exemples élaborés de Progymnasmata qui nous est parvenu de l'Antiquité tardive est celui qui est remis sous le nom de Libanios. Quant à son contenu, il est très étroitement lié au manuel d'Aftonios et peut donc en effet légitimement être regardé sous plusieurs rapports comme un élargissement de la sélection succincte de ce dernier. Il a bien sûr des problèmes d'authenticité pour une grande partie des exemples. Il y a surtout plusieurs interférences avec les recueils plus tardifs du pseudo-Nicolaos et de Severos d'Alexandrie, de façon qu'on peut soupçonner à juste titre que plus d'une pièce de ces deux recueils pourrait peut-être avoir été insinuée dans celui de Libanios, surtout s'il s'agissait d'anciens élèves de Libanios. Faute de temps, je ne peux pas entrer dans les détails ici. Sur cette trame, il est un coup de chance que les exemples d'Aftonios, dont l'authenticité est virtuellement incontestée, sont souvent parallèles à ceux de Libanios et peuvent donc servir de point de référence et appui. Dans leur ensemble, les exemples de Libanios, dans la mesure où ils peuvent être regardés comme originaux, et ceux d'Aftonios sont un esprit clairement hellénique et païen. Non seulement un grand nombre de ces pièces sont continuellement entremêlées de mythologie grecque païenne, ce qui pourrait aussi être expliqué comme une réminiscence purement littéraire, mais en outre, surtout les exemples de narration ou récits chez Libanios, comme l'a bien observé Bernard Schuller, tournent assez souvent autour des motifs de mesure et de mesure, de l'hubris, des mortels et de la némésis de la part des dieux, et ainsi se réfère à un code moral archaïque qui peut bien être appelé delphique et qui n'est guère compatible avec une pensée chrétienne. Le même vaut pour son ekphrasis de l'ivresse comme exemple de démesure avec laquelle est contrasté dans une crie l'idéal de la discipline et sobriété de Démosthène. Même dans son étopée d'une prostituée devenue honnête femme, la dame en question comprend que sa culpabilité consistait en une faute contre la modération, la sophrosyne. C'est seulement en passant que je voudrais mentionner que Libanios ainsi qu'Aftonios se prononcèrent aussi très clairement contre la monarchie et en faveur des processus de décision démocratique et basés sur la loi. Dans des lieux communs contre un tyran et en faveur d'un tyrannicide, ainsi que dans des discours de réprimande contre Philippe, roi de Macédoine, ce qui peut très bien être interprété comme une critique générale du système monarchique en tant que tel. Parce qu'il n'y a aucune allusion à la possibilité d'une monarchie bonne et juste. Dans notre contexte, ce détail peut quand même être d'une certaine importance parce que les empereurs, appelés basileis, rois en grec, et leurs magistrats provinciaux, s'instituèrent aussi très souvent comme défendeurs de la foi chrétienne. Cette attitude païenne et anti-chrétienne est particulièrement évidente dans le choix d'exemple d'ekphrasis. Aftonios choisit le sanctuaire du dieu Serapis situé sur l'acropole d'Alexandrie. Ce sanctuaire célèbre et fameux de par toute l'écumène ancienne fut saccagé et incendié en 391 par une foule débridée chrétienne sur instigation du patriarche Théophile d'Alexandrie, et on chuchotait avec le consentement tacite de l'empereur Théodose. D'abord, il avait été jugé un miracle pour les touristes du monde entier et un chef-d'œuvre de culture païenne. Son ravage en 391 est pris par beaucoup d'interprètes comme un terminus antequem pour la rédaction de la description aftonienne. Il me semble terminus postquem, pardon. Terminus antequem, donc. Oui, pour la rédaction de la description aftonienne. Il me semble beaucoup plus probable, cependant, qu'on doit au contraire prendre ce moment comme un terminus postquem. Car d'un côté, la description d'Aftonios est suffisamment floue et évasive pour ne pas nécessairement présupposer une connaissance basée sur expérience personnelle. Et d'autre côté, le fait que l'auteur fixe son attention de grande partie sur la dépendance de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, un lieu symbole de la culture helléniste, qui était hébergé dans un annexe de ce temple et qui naturellement était aussi détruite à l'occasion de sa dévastation, fait soupçonner qu'Aftonios pourrait avoir choisi ce sujet comme un geste de protestation contre la dévastation barbare d'un tel sanctuaire par les chrétiens. Si c'était à Antioche qu'Aftonios rédigea cette pièce, il s'agirait même d'un acte extrêmement signifiant, car à cette époque, Antioche était déjà à 80% christianisé et le siège d'un des plus prestigieux patriarcats de l'Église chrétienne. Précisément dans le IVe siècle tardif, elle était même un chef-lieu de controverses théologiques chrétiennes. Curieusement, dans le corpus progymnasmatique attribué à Libanios, il se trouve un bel équivalent à cette pièce aftonienne. Un des exemples d'ekphrasis prend comme sujet le temple de Tyche, déesse de la fortune, le Tychaion, situé dans la même Alexandrie. Il est peu vraisemblable que cette pièce soit originale. Elle serait plus vraisemblablement imputée à Pseudo-Nicolaos, parmi les descriptions duquel elle se trouve aussi. Le Tychaion fut affecté lui aussi par les troubles de 391. Il ne fut certes pas détruit, mais toutefois profané et transformé en taverne. Dans ce cas aussi, je propose de prendre l'année de référence 391 plutôt comme un terminus postquem et de regarder la pièce comme un acte de résistance anti-chrétienne. Je ne suis donc pas d'accord avec l'opinion de Craig Gibson, publiée en 2009, selon qui, en raison de cette pièce, l'ouvrage du pseudo-Nicolaos daterait encore du IVe siècle tardif. Nous en resterons là. Les écoles grecques de rhétorique et celles d'Antioche, surtout, restaient de véritables bastions du paganisme ancien, tout au milieu d'un environnement progressivement chrétien. Il avait bien sûr aussi des rhéteurs chrétiens. Libanios lui-même avait de très importants élèves de foi chrétienne, comme par exemple Théodore de Mopsueste et peut-être Jean Chrysostome. Même à Athènes, au lieu de la foi traditionnelle, parfois il y avait des professeurs chrétiens titulaires de chaire de rhétorique. Au moins, on l'affirme à plusieurs reprises sur le sophiste Proaireios dans le IVe siècle. Mais autant qu'on sache, même ceux-ci n'ont jamais ni élargi ni abandonné le canon traditionnel des sujets dans leur enseignement. Dans ce contexte, le rhéteur Nicolaos de Myre, le véritable porteur de ces noms cette fois-ci, prend une place particulière. Craig Gibson, le même, dans un article dans Vigiliae Christianae de 2010, avec référence au mot paidophthoros, corrupteur de garçons, que Nicolaos utilise pour un homme pédéraste, et qui, selon Gibson, appartiendrait au vocabulaire polémique chrétien, a pu faire très probable que Nicolaos était chrétien lui-même. Néanmoins, dans son manuel progymnasmatique, parmi les nombreux sujets proposés par des exercices individuels, on ne trouve aucun sujet perceptiblement chrétien. Tout reste dans le cadre traditionnel. D'autre côté, dans le corpus libanien, on trouve comme unique exemple d'une proposition de loi la recommandation d'une loi qui prohiberait le soi-disant mariage de l'Evira, c'est-à-dire le type de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère. Clairement, l'exemple ne peut pas être authentique chez Libanios, et non plus on l'attribuerait sans scrupule au pseudo-Nicolaos. Il doit rester douteux si cette pièce vraiment remonte au passage de l'Ancien Testament ou bien à la question piège posée à Jésus par les Sadducéens dans les évangiles synoptiques. On ne pourra donc guère l'adresser comme témoignage de pensée chrétienne. En tout cas, les prescriptions de la loi mosaïque sur l'alimentation des veuves sont déconseillées dans cette pièce. Quand même, cet exemple montre ce qui était au moins possible dans l'Antiquité tardive. En résumé, cependant, il est évident que les corpus de progymnasmata de l'Antiquité tardive furent tous attachés à un esprit offensivement payant et traditionnel. Cela vaut en particulier pour le manuel cardinal d'Aftonios et les recueils d'exemples élaborés de Libanios. Mais c'était précisément le petit opuscule d'Aftonios qui, depuis le 5e siècle ou plus tard, était firmement attaché aux œuvres originales ou putatives d'Hermogène pour en faire un précis complet de rhétorique, la soi-disante techné, qui devint ensuite le manuel standard et canonique en rhétorique pour l'entière époque byzantine. En disant cela, j'ai abordé la troisième partie de ma conférence. Si les progymnasmata, comme nous l'avons vu au-dessus, outre l'entraînement de qualité rhétorique, avaient toujours aussi eu l'autre fonction d'inculquer des normes et valeurs culturelles, politiques et religieuses, cela devrait être vrai juste autant pour leur histoire dans l'époque byzantine et chrétienne. Un manuel si prononcément païen dans ses exemples comme celui d'Aftonios, comment pouvait-il donc être employé dans les cours scolaires dans un environnement chrétien pur et dur? En effet, pendant toute l'époque byzantine, pas un seul manuel nouveau de progymnasmata ne fut écrit, qui aurait pu remplacer celui d'Aftonios. Mais au lieu de cela, tant plus de commentaires, prolégomènes et scolies à ce manuel. C'était donc uniquement par le biais de ces matériaux secondaires qu'un ajustement de l'enseignement des progymnasmata au milieu d'une société chrétienne pouvait se passer. Le plus facilement, moyennant de nouveaux exemples de caractère chrétien. Ces derniers pouvaient ou avoir la forme de recueil à l'exemple de ceux de l'Antiquité tardive, ou bien des pièces uniques, brillantes et surimminentes, soit isolées, soit intégrées dans des ouvrages littéraires plus grands. En principe, il y avait abondamment de réservoirs de sujets chrétiens adaptables, tels que les récits et personnages de l'Ancien et Nouveau Testament, les légendes des saints, les martyrs, des martyrs et docteurs de l'Église, les monuments architecturaux et objets d'art chrétiens, et enfin, même des événements signifiants de l'histoire de l'époque byzantine. Sur le camp épineux des controverses théologiques, par contre, les Byzantins n'hésitent pas à avancer à ce niveau. Très longtemps, il était l'opinion généralement répandue que la première apparition à grande échelle de sujets chrétiens dans les progymnasmata ne se passa qu'à la fin de la période méso-byzantine, au XIIe siècle, et que le rôle de pionnier était dû au recueil des Nikephoros Basilakes. Cette notion, cependant, définitivement exige une révision. Elle peut au mieux prétendre à une validité limitée au niveau des grands recueils, mais même là, les choses sont assez loin d'être sans équivoque. On commencerait bien sûr par chercher des vestiges de christianisme dans les grands commentaires à Aphtonios de la période méso-byzantine, qui tous chronologiquement précèdent le recueil de Basilakès. Le plus ancien en est celui de Jean de Sarthe du IXe siècle et le plus volumineux et détaillé celui de Jean d'Oxapatres du XIe siècle. Un troisième commentaire, celui de Jean Géomètre du Xe siècle, ne nous est pas parvenu, mais est toujours reconnaissable par des multiples citations qu'en fait Jean d'Oxapatres, qu'il a exploité en toute profondeur. Chez un évêque comme Jean de Sarthe et un moine comme Jean d'Oxapatres, on pourrait certes à juste titre espérer de trouver des insertions ou au moins interprétations chrétiennes. Dans le cas du Sardien, cependant, cette espérance est complètement déçue. Son commentaire reste entièrement dans l'horizon intellectuel des manuels de l'Antiquité tardive. C'est dans un seul passage et dans un seul manuscrit isolé qu'on trouve entremêlé une citation du livre de la Genèse « Et Dieu créa le ciel et la terre ». L'éditeur du commentaire, Hugo Rabe, expliqua cette absence presque totale des réminiscences chrétiennes par l'hypothèse que le Sardien ait de grande partie tout simplement copié sur une source païenne plus ancienne, et que les commentateurs chrétiens les plus anciens, en général, aient rarement fait état de sa foi religieuse. Ainsi, semble être à peu près pareil le cas des soi-disant Scholi P, publiés dans le deuxième volume de Waltz, et ainsi nommés après leur manuscrit principal un Codex Parisinus, qui devrait avoir été compilé aux alentours de l'an 1000. Ces scolies s'appuient en grande partie sur le manuel de Nicolaos de Myre, auteur éventuellement chrétien, sur l'absence de motifs chrétiens dans l'ouvrage duquel nous avons déjà eu occasion de parler. Il en est tout autrement dans le commentaire de Jean d'Oxapatres. Dans les presque 500 pages de ce commentaire, on trouve parfois, mais non pas particulièrement souvent, des citations s'empruntées à l'Ancien ou Nouveau Testament ou aux œuvres du théologien Grégoire de Nassians. Jamais, cependant, dans le contexte des exemples illustratifs. Mais, à vrai dire, Doxapatres, plusieurs fois, précisément 9 fois, complète ou remplace les exemples donnés par Aphtonios par d'autres exemples. On a pu montrer, surtout Greg Gibson, que ces exemples n'ont pas été inventés par Doxapatres lui-même, mais qu'il les a empruntés dans leur ensemble à un recueil quelque peu plus ancien. Dans ce groupe d'exemples, outre les sujets mythologiques traditionnels, il y a aussi une étopée dans le caractère de l'empereur Michel V Kalafates, empereur byzantin pendant 4 mois seulement, en 1041 et 1042. Ce Kalafates était empereur pendant seulement 4 mois, en 1041 et 1042. Cette épopée de Michel Kalafates se prononçant sur un renversement du trône, et donc un sujet pris de l'histoire contemporaine byzantine. Comme la pièce fait déjà état de l'éblouissement de l'empereur, elle doit être datée à une période postérieure à 1042. Il est fort possible que le recueil anonyme dépouillé par Jean contint encore plus de pièces de ce genre. De la plume de Jean Géomètre, une des sources principales de Doxapatres, nous est parvenue une pareille étopée en 12 vers de l'empereur Niképhoros Phokas du Xe siècle, se plaignant de l'hôte du ciel de la mutilation de ses statues après sa mort. En outre, en marge du fameux Codex de Madrid, de l'œuvre de Jean Skilitzes, l'historien, qui date de la période entre 1150 et 1175, il se trouve une étopée en vers de l'empereur Léon VI mourant. On recourt à une période beaucoup plus ancienne, avec quelques prolégomena au manuel d'Aftonios qui sont assemblés dans la Prolegomenon Syllogae éditée par Hugo Rabe. Dans la quatrième pièce, datant du 4e ou 5e siècle, à l'occasion de la discussion des types de constitution, l'auteur remarque qu'à 100 ans, on mène une vie heureuse, fidèle et orthodoxe sous la monarchie. Et un peu plus avant, il parle aussi de la très bienheureuse Romaicae Politeia. En outre, la 8e pièce du 5e ou 6e siècle cite une autorité chrétienne comme Grégoire de Nazianz comme exemple et modèle du style simple. Tout cela, cependant, ne fait pas encore de progymnasmata chrétien. Mais aussi, pour ceux-ci, il y a des exemples bien anciens. Dans le Codex des Visions, nous parvenus sur les papyri Bodmer 33 et 35, de provenance égyptienne, 4e à 5e siècle, dans le contexte de plusieurs visions du pasteur d'Hermas et du martyr Dorothée, il se trouve aussi deux étopées en hexamètre, commentées en détail par le professeur Fournet dans cette PE. Dans un séminaire de papyrologie, naturellement, je ne peux pas supprimer des documents en papyrus. Vous trouvez ici les deux pages du papyrus où se trouvent les deux étopées. Les mots de Caïn après avoir tué Abel en 19 vers et encore plus long en 67, les mots d'Abel après avoir été tué. Au son technique de la théorie ancienne, donc une idolopée, un discours d'un défunt. Dans ces agrandissements, on peut bien discerner les lignes des titres. Vous pouvez voir, et j'ai transcrit dessous. Cette fois-ci, le contexte chrétien est absolument hors doute en raison des textes principaux du papyrus. Certes, il s'agit de pièces isolées, mais elles s'avèrent clairement comme des étopées progymnasmatiques par la ligne des titres caractéristiques. Quel mot Caïn ou Abel pourrait-il avoir dit dans une telle ou telle situation? Ti an eipoi, c'est la ligne stéréotype des titres d'une étopée. On a en effet soupçonné une provenance de ces pièces du milieu de l'école de rhétorique. Leur style épique est entremêlé avec bien d'assonance aux textes homériques. Quant à leur composition générale, elles observent largement les instructions données par Aftonios, en tant qu'elles sont divisées selon les trois temps, présent, passé, futur. Une troisième pièce sur les papyrus Bodmer 30, dans lesquels Abraham, Sarah et Isaac discutent en dialogue sur l'ordre de Dieu de sacrifier Isaac, pourrait être classée dans le même contexte, sauf qu'elle manque la ligne typique de titre. De telles étopées traitant des sujets de l'Ancien Testament, en effet, semblent avoir été les exemples les plus anciens de sujets chrétiens. Dans sa bibliothèque, le patriarque Photios fait état, sous le numéro 51, de l'ouvrage d'un doyen de paroisse appelé Isichios de Constantinople sur les serpents de bronze, dans lequel il y aurait eu des discours en style direct entre Moïse, Dieu et le peuple d'Israël. Si l'Isichios en question est identique au fameux adversaire de l'hérétique Eunomios, il daterait encore du 4e siècle. Aux légendes de martyrs, par contre, se rattacherait une pièce d'Astérios d'Amaseia qui, dans le contexte des loges de martyrs, contient entre autres l'ekphrasis d'une série de tableaux représentant le martyr de Sainte Euphémie. C'était donc surtout les scènes de l'Ancien Testament ainsi que les légendes des saints qui fournirent les plus anciens sujets d'exemples chrétiens de progymnasmata. Au niveau de genre, c'était clairement l'étopée et l'ekphrasis qui prédominèrent. Dans le domaine de l'ekphrasis en particulier, c'était l'école de Gaza qui brilla, la toute première école de rhéteurs qui de toute évidence était chrétienne. Tandis que Procope de Gaza ne traita pas de sujets chrétiens, son élève Corychios nous laissa une description de deux églises gazaouises que Ruth Webb, une des plus grandes expertes de l'ekphrasis ancienne et byzantine, caractérisa comme « some of the most prominent early examples of the ekphrasis of church buildings ». En outre, c'est à l'historien Procope de Césarée du VIe siècle et son ouvrage « De Edificiis » que nous devons de multiples descriptions de marquants édifices commissionnés par Justinien, entre eux aussi d'édifices religieux. C'est donc assez tôt que les descriptions d'églises chrétiennes commencent à se poser comme un contre-projet, pour ainsi dire, aux fameuses descriptions des sanctuaires de l'Antiquité païenne. C'est naturellement l'église de Sainte-Sophie à Constantinople qui prend une position centrale et prééminente. C'est à elle que sont dédiées un grand nombre de descriptions de diverses époques, dont une des plus importantes est sans doute celle de Paul le Silencieux, composée en vers et récitée à l'occasion de la réconsécration de l'église en 562 ou 563. Théophylacte Simocates, dans le 7e siècle, nous introduit à un tout autre genre. Il est vrai que ces fables, enrobées dans les lettres littéraires, restent entièrement dans la tradition des fables d'Ésope et parfois même coïncident avec les exemples de Libanios et Aphtonios. Mais au moins à la fable du chouka qui se pare des plumes d'autres oiseaux pour être élu roi, il ajoute un épimution de contenu chrétien, dans lequel le lecteur est invité à renoncer à la gloire caduque de ce monde pour mettre son espoir en les joies de la vie de l'au-delà. Un document de grande importance provenant de cette même période, mais de façon complètement diverse, un document que je connaissais déjà, mais sur l'importance duquel dans notre contexte mon attention a été attirée par le professeur Fournet, est l'adaptation arménienne du manuel d'Aphtonios du 7e siècle, le soi-disant livre de Shri, mais qui traite presque de tout l'éventail de progymnasmata. Ce n'est pas seulement un recueil d'écrits. Comme la tradition arménienne est dépendante de la byzantine, ce manuel éminemment s'inscrit dans notre contexte. Car dans ce manuel, outre des matériaux traditionnels aphtoniens et d'autres sujets païens, on trouve de nombreux exemples modèles d'influence biblique et chrétienne, du nouveau surtout dans les secteurs d'étopée et d'ekphrase. On trouve des sujets de l'Ancien Testament, comme Adam, Joseph, Moïse, David, mais aussi quelques-uns de provenance du Nouveau Testament, comme saint Paul au chemin de Damas, ou saint Pierre après son reniement de Jésus-Christ. Mais aussi dans les contextes de l'éloge, du blâme et de la comparaison, on trouve des personnages comme Moïse, Absalom, Abraham ou Élie. Si ces additions chrétiennes sont à imputer à l'adaptateur arménien ou si elles faisaient déjà partie de son modèle grec, est le sujet d'une longue controverse des savants, particulièrement entre Gohar Mouradian et Peter Coe, sur laquelle je ne peux pas ici m'étendre. La chose qui vraiment importe dans ce document, c'est l'apparition de tels sujets chrétiens dans un contexte indubitablement pédagogique et scolaire. Mais même dans ce document riche, il se manifeste que l'abondant éventail d'exercices progymnasmatiques anciens, ce sont surtout les étopées et les descriptions qui attirent des sujets chrétiens déjà dans la période byzantine la plus ancienne. Passons maintenant à la période méso-byzantine. Dans celle-ci, c'est en effet le grand recueil de Niképhoros Basilakès du XIIe siècle qui se trouve au centre. Ce recueil a récemment été édité et traduit en anglais par Jeffrey Benneker et Craig Gibson. Il offre, même si en nombres assez divers, des exemples modèles pour cet exercice divers. Selon le comptage de Waltz, il y a 5 fables, 15 récits, 2 shris, 1 exemple d'adage, réfutation et confirmation chacune, et 23 étopées. Mais à notre grande surprise, aucune description. La première des shris choisit comme son sujet, au lieu d'une autorité ancienne, un mot de Grégoire de Nassiens, « En faisant de bonnes œuvres, crois que tu imites Dieu ». Et elle rapporte cela à la position proche de Dieu de l'empereur byzantin. La plupart des autres exemples, par contre, restent largement dans le domaine de la mythologie et histoire ancienne, toutefois avec la grande exception des étopées. Au moins 14 des 23 étopées de Basilakès, c'est-à-dire plus que la moitié, traitent des sujets chrétiens. Mais ce n'est plus comme avant l'Ancien Testament qui prédomine. Il y a quand même 2 pièces sur Joseph, sur Samson, une sur Samson et 3 sur David. Mais c'est plutôt le Nouveau Testament. Nous trouvons Zacharie guéri de son mutisme, la mère des dieux aux noces de Cana, l'aveugle de naissance du nouveau voyant. Dans un syncrétisme assez frappant, Hadès, dieu de l'enfer, s'irritant de la résurrection de Lazare, le servant du grand prêtre coupé l'oreille et guéri par Jésus, encore la mère de Dieu comme Pietà déplorant la mort de son fils, et enfin Saint-Pierre victorieux du mage Simon. Avec tout cela aussi imprimé à la légende de Sainte-Euphémie, l'histoire émouvante de cette jeune fille de la cité d'Edessa, réduite en esclavage par un soldat barbare goth qui lui avait d'abord promis le mariage. Ce dernier exemple jette un pont surprenant entre Basilakès et les ekphrases d'Astérios d'Amaseia dont nous avons parlé plus haut. Dans un essai jusqu'alors inédit intitulé « Pagan Theme and Variation in the Biblical Ethopoeiae of Niképhoros Basilakès », Craig Gibson a scruté les étopées chrétiennes de Basilakès et constaté que l'auteur y effectue une sorte de transfert culturel en transposant les personnages et événements bibliques dans un univers d'idées traditionnelles hellènes et en les jugeant selon des critères purement grecs. Comme ça, les personnages bibliques souffrent du conflit entre la sagesse, Sophrosyne, et le désir amoureux, Eros, ou bien, comme Joseph en Égypte, sont aux prises avec les effets de la jalousie, phtonos. La lamentation de la Vierge sur Jésus fait clairement emprunt à la lamentation d'Andromaque sur Hector qui se trouve chez Libanios. En outre, Gibson observe que les miracles du Nouveau Testament vraiment bouleversent d'une certaine manière le schéma compositionnel aftonien des trois temps. Au lieu de « présent misérable », souvenir d'un passé bienheureux et perspective d'un avenir encore pire, ce qu'il y a maintenant, c'est la séquence présent heureux, après libération de souffrance du passé et suivi de la perspective d'un avenir encore plus glorieux. Assimilation culturelle et jeu ingénieux avec les traditions hellènes sont les méthodes de Basilakès. Basilakès, toutefois, n'est pas seul en sa préférence de sujets chrétiens. Un compendium, manuscrit grande échelle, identifié par Rabe comme un corpus rhétorique délibérément compilé et titulé Rhetorica Marciana, selon le manuscrit principal, le Codex Marcianus 444, contient dans sa première partie un abrégé de la doctrine d'Aftonios, complété par un recueil très particulier d'exemples alternatifs. Là aussi, à côté de choses très conventionnelles, on trouve également des sujets chrétiens, comme par exemple un éloge de la vertu de l'humilité et un blâme correspondant de l'orgueil, ainsi qu'une comparaison des grands docteurs d'Église, Cappadoce, Basile le Grand et Grégoire de Nassiens, ou bien une description d'un baptistère. Basé sur l'évidence des manuscrits les plus anciens et les citations de littérature précédente, ce compendium peut être daté de la période entre l'11e et le 3e siècle. Mais si Hock et O'Neill, en supposant qu'une telle tradition ne commença qu'avec Basilakès, pour raison de ces exemples chrétiens, essayent de délimiter encore plus cet espace de temps et de fixer la date de la rhétorica marciana après Basilakès, c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle, cette construction, il faut le dire, a l'air d'une petitio principii à laquelle je ne peux pas souscrire. Nous avons vu que les sujets chrétiens apparaissent fort bien déjà depuis la période byzantine ancienne. On ne peut donc pas exclure la possibilité qu'il soit en effet la rhétorica marciana qui ait le droit à la priorité chronologique, de façon qu'il soit à elle qu'il ait dû l'honneur d'avoir été la première à compiler un recueil systématique incluant des sujets chrétiens. Chez Michel Italikos, par exemple, on rencontre l'étopée charmante d'une icône de Saint Étienne qui se plaint d'avoir été vendue à des commerçants vénitiens par des sacristains byzantins cupides. Les événements catastrophiques de la prise de Constantinople par les croisés latins en 1204 s'annoncent. Dans cette étopée, les caractères de l'icône et du saint lui-même se fondent jusqu'au point de l'identité et on joue abondamment et ingénieusement avec le sens littéral du mot « Stéphanos » couronne. De la période de l'exil nicéen pendant la domination latine entre 1204 et 1261, on connaît plusieurs recueils de progymnasmata. Mais tandis que Théodore Exapterygos ne donne que des récits au sujet exclusivement mythologique, les collections de Niképhoros Chrysoberges et de Constantine Acropolites sont beaucoup plus fertiles. Chrysoberges offre entre autres une étopée d'un philologue chrétien du IVe siècle qui se trouve affecté par l'interdiction aux chrétiens de lire des textes païens édictés par l'empereur Julien. Et un discours d'Aaron, frère de Moïse, à l'occasion de l'érection du veau d'or. Acropolites, par contre, qui est actif après la restitution de l'Empire sous les paléologues, outre une comparaison des vertus de la charité et de la tempérance et une description de la cérémonie pascale, fournit lui aussi plusieurs étopées dans lesquelles on trouve Adam expulsé du paradis, ainsi que Lazare ressuscité, le larron à droite de Jésus au calvaire et l'empereur Constantin guéri de la lèpre. Après tout cela, on ne sera pas trop étonné par le fait que le nombre de modèles de progymnasmata du type chrétien byzantin augmente fortement dans l'ère byzantine tardive. Il y a cependant une différence signifiante. Maintenant, il ne figure plus dans des recueils de grande envergure, mais plutôt comme des pièces brillantes isolées intégrées dans de plus grands textes narratifs. Certes, au siècle XIIIe et XIVe, Niképhoros Kallistos Xanthopoulos choisit un mot de Grégoire des Nations sur la valeur de la pauvreté comme sujet d'une élaboration d'adage, et Georges Pachymérès rédige une description de la statue équestre de Justinien dans le Forum de Constantinople. Mais par rapport à cela, les innombrables éloges des divers empereurs qu'on ne peut guère énumérer et les descriptions préconisant de tant de villes sont légion. Parmi les dernières, outre le Constantinople incontournable, ce sont surtout les capitales suppléantes ou subordonnées comme Trébizonde, Nicée et Thessalonique, mais aussi Corinthe, qui se mettent en vedette. Très populaires comme sujet de description sont aussi des églises remarquables, outre la Sainte-Sophie, l'église des apôtres, mais aussi bien d'autres, soit à Constantinople, soit d'ailleurs. Non pas moins innombrables sont les étopées, en grande partie encore inédites de la Vierge Théodocos, sous la croix, entre autres par Georges Lapides ou Nélos Diasorenos. Au demeurant, l'Éthiopie des derniers siècles de l'époque byzantine s'intéresse de plus en plus aux affaires de la politique courante. Un chef d'œuvre particulier de ce genre est certainement une Éthiopie rédigée par l'empereur même Manuel II Paléologos, immédiatement après la défaite des Ottomans contre les Mongols dans la bataille d'Ankara en 1402, qui retarda de quelques années la chute finale de l'Empire byzantin. Manuel imagine les mots de Tamerlan, chef des Mongols, devant la pusillanimité et la larmoyance du sultan ottoman vaincu Bayezid. Peu lui vaut une victoire remportée sur un tel poltron lâche. On peut imaginer comment les Byzantins se délectèrent de cette description de leur ennemi. Voire même après la chute de Constantinople, l'étopée rhétorique byzantine restait-elle populaire? Gennadios Scholarios, le premier patriarche de Constantinople sous les sultans turcs, rédigea une étopée de Saint-Pierre après avoir trois fois régné Jésus. On peut bien se demander si Gennadios n'est pas essayé de surmonter de manière indirecte sa propre mauvaise conscience de traître par le biais d'un exercice rhétorique. En somme, il est clair que dans les périodes moyennes et tardives de l'Empire byzantin, les anciens progymnasmata païens ont effectivement réussi à arriver dans la culture chrétienne des Byzantins. Ils purent alors servir à disséminer et inculquer aussi des normes et valeurs morales, religieuses et politiques, désormais chrétiennes et byzantines. Les anciens païens avaient enfin été christianisés et donc, pour ainsi dire, baptisés. Mais ce développement clairement commença assez tôt, déjà au début de l'ère byzantine, au IVe et Ve siècle. Mais le procès de la christianisation des progymnasmata rhétoriques fut loin de se terminer avec la chute de Constantinople. La période la plus célèbre de leur histoire était encore à venir, car c'était au XVe siècle que les progymnasmata grecs d'Aftonios enfin parvinrent à l'Occident latin, conjointement avec le corpus hermogénien. Une des voies principales de transmission était par l'Italie méridionale, mais une autre voie s'ouvrit par les nombreux intellectuels byzantins qui affluèrent à l'Occident et surtout en Italie après 1453, et donc la plupart eurent dans leur poche comme équipement de base, pour ainsi dire, les incontournables Hermogène et Aftonios. Les humanistes occidentaux aussitôt reconnurent la valeur pédagogique des progymnasmata pour leur nouvelle méthode d'éducation. Pour cela, cependant, il fallut des traductions latines, parce que rares étaient à l'Occident à l'époque ceux qui possédèrent le grec, et certainement pas les jeunes élèves. De nouveau, les progymnasmata anciens devaient-ils s'adapter à une nouvelle culture linguistique et religieuse ? Car les humanistes, eux aussi, en reconnurent la valeur pour l'éducation morale et civile des élèves. Instantanément, ils commencèrent une intense activité de traduction à laquelle prirent part les plus grands savants de l'époque. La traduction la plus ancienne, toujours au XVe siècle, est sortie de la plume de Rodolphe Agricola. Elle voyait plusieurs tirages, mais elle faisait vraiment fortune quand Reinhard Lorich, professeur de rhétorique à l'université de Marburg, l'amalgama avec une deuxième traduction faite par un Italien et la munit d'un commentaire détaillé et de nombreux exemples additionnels et fit imprimer cette version à Marburg en 1542. La version de Lorich devint un véritable best-seller. Elle fut réimprimée plus que 550 fois, dont la dernière en 1718, en beaucoup de pays divers et utilisée dans innombrables écoles. Les nombreux exemples additionnels que Lorich ajouta aux originaux d'Aftonios furent partiellement empruntés aux poètes et écrivains anciens, partiellement à d'autres recueils, mais d'une grande partie furent rédigés par Lorich lui-même. Lorich composa par exemple une description de sa propre maison et Il rédigea des écrits sur des bons mots de ses collègues professeurs de Marbourg et il imprimta à Pierre Monzelanus une discussion d'une loi suisse sur la répression de l'abus de l'alcool. Or, Lorich, qui avait fait ses études à Wittenberg et qui avait connu personnellement Luther et Melanchthon, était un partisan résolu de la réforme protestante. Par conséquent, il ne pouvait manquer d'insérer dans son manuel aussi des positions explicites quant à la réforme. Il manœuvra cependant avec assez de circonspection. Dans la première édition de ses Progymnasmata, il intégra par exemple non seulement une confirmation, mais aussi une réfutation de la reproche très populaire à l'époque parmi les protestants que pendant la guerre de Schmalkalden, un duc catholique eut clandestinement infiltré des agents secrets dans les municipalités protestantes pour les incendier. Comme cependant, Lorich se rendit compte du fait que son livre fut utilisé aussi dans des écoles catholiques, il prudemment bannit cet exemple de la deuxième édition de 1546. Malgré ses prises de position assez explicites dans les conflits interconfessionnels de l'époque, le manuel détaillé et quand même maniable de Lorich continua de tenir le haut du pavé dans les écoles protestantes ainsi que catholiques, ce qui était au moins partiellement dû au fait que les jésuites, qui avaient principalement responsable de l'éducation dans les pays catholiques, pour l'instant, n'avaient rien de pareil à offrir, de façon qu'ils se trouvaient contraints de recourir au manuel de Lorich. D'autres éditeurs de recueils de Progymnasmata furent beaucoup moins discrets qu'ils n'avaient été Lorich. Au début, la polémique était plutôt du côté des protestantes. Burkhard Harbart, par exemple, en 1591, présenta non seulement une réfutation de la superstition catholique sur le purgatoire, mais aussi un flagrant éloge des prouesses de Luther, se lançant même dans une comparaison de Luther avec le prophète Élie, mais ajouta également une sévère critique de la décadence religieuse de son temps et enrobé dans une étopée du réformateur. Tandis qu'au XVIe siècle, malgré toute polémique confessionnelle, la situation était assez relaxée, au moins au sein des écoles. Les auteurs catholiques et protestants librement empruntèrent l'un à l'autre et les livres de classe étaient utilisés aux deux côtés de la frontière confessionnelle. Cette situation se renversa complètement lors du déclenchement de la guerre des Trente Ans. Non seulement les livres de Lorich, auteur alors mis à l'index, dut maintenant être utilisé avec le nom d'auteur effacé ou dans des réimpressions expurgées, mais la polémique en général devint plus acrimonieuse. Un bon exemple illustratif de ce développement sont les Progymnasmata du recteur de lycée de Stettin, Johannes Michaelius, publié en 1656, 8 ans après la fin de la guerre. Dans ce manuel, les exercices furent arrangés comme de petites compétitions entre 6 ou 7 élèves qui chacun s'efforçait de l'emporter sur leurs concurrents par leur présentation. Par exemple, il s'agissait de déterminer les plus grands crimes de toute l'histoire du genre humain, qui enfin s'avéra être le massacre de la Saint-Barthélemy. Un crime plus abominable que la persécution des chrétiens par Néron ou la trahison de Judas. Ou bien on cherchait le dogme le plus absurde des papistes, les candidats étant la messe, le purgatoire, la vénération des saints et le commerce des indulgences, les vainqueurs naturellement étant le dernier. Mais désormais, les jésuites rendirent la monnaie de leurs pièces. Ils avaient entre-temps développé leur propre manuel de Progymnasmata et ne manquèrent de polémiques virulentes, mais parfois plus subtiles. Dans les Exercitationes Oratoriae de 1660, le jésuite Jacobus Marsen, sous le masque éthopoétique de Martin Luther, déblatéra à corps et à cri contre les péchés de sa propre Église catholique. mais seulement pour prendre le contre-pied immédiat avec une défense de la dite Église dans le caractère de Jean Cochléus, adversaire acharné de Luther. Et le jésuite français François Pomé rédigea un éloge ironique de Luther dans lequel chaque assertion sur le réformateur, à première vue laudative, se retourne subtilement et ironiquement contre lui. Une insulte rude et pas du tout subtile, par contre, est la vitupération de Jean Calvin de la plume du même auteur, qui bascule dans une pure liste d'injures les plus dégoûtantes et plus fantasmagoriques, dont Mundi portentum, cloaca lubidinum ou infernum monstrum sont même les plus inoffensives. Cet échange de polémiques avec lequel, bien entendu, furent intoxiqués les plus jeunes élèves, se prolongea jusqu'au XVIIIe siècle. Et si les réformes scolaires de l'époque des Lumières n'avaient mis un terme à la rhétorique comme matériel scolaire, et donc également à la tradition des exercices progymnasmatiques, qui sait ce qui aurait été à venir? Les Byzantins, par contre, en christianisant les exemples modèles d'exercices progymnasmatiques, avaient sagement évité d'embarquer de tels sujets controversés de théologie. Et bien leur en a pris de ne pas l'avoir fait. C'est pourquoi ils ont bien réussi à pas entremêler d'idéologie chrétienne les anciens exercices païens et à les conserver pour des siècles à venir comme instrument utile de la formation rhétorique ainsi que religieuse et morale. Ce n'est pas à eux qu'on doit reprocher le fait qu'à la fin, les progymnasmata christianisés ont été convertis en armes virulentes de polémiques interconfessionnelles. Je vous remercie beaucoup de votre patience.